Amen, merci Farid. Non, non, super. Bonjour à tous, vous allez bien?
Ça va?
On l'a vu ce matin, Dieu guérit encore aujourd'hui. Et Dieu, il agit. Et Dieu, il parle. Ça, vous le croyez? Aujourd'hui, Farid l'a dit, c'est un dimanche particulier. On m'a demandé de prêcher avec ma femme. C'est une grande première. Et quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai vraiment eu à cœur de me plonger dans Matthieu 6. Matthieu 6, du verset 24 au verset 34. Je vous laisse le temps de le prendre. Matthieu 6, vous allez l'avoir aussi derrière moi, normalement, David. Et je vous propose donc de le lire. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus ?» Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai l'habitude j'ai l'habitude, une fois que j'ai lu le passage, de vous donner le contexte du verset. Mais là, ce matin, j'ai envie de faire différemment. J'ai envie de vous donner le contexte de la préparation de ce message. Quand j'ai su que je devais prêcher ce matin, il y a de nombreuses semaines, j'ai reçu donc Matthieu 6. Et puis comme mon formateur Farid m'apprend depuis presque plus de 2 ans, je me suis plongé dans la parole, je me suis plongé dans ce passage et j'ai eu des vrais temps de qualité, des vrais temps de prière. Je les ai enchaînés et puis semaine après semaine, jour après jour, j'avais aucune direction. Aucune direction sur cette prédication. Et vous vous rappelez du message de Farid la semaine dernière, « Vive dans la victoire ». Farid nous a parlé des combats, Farid nous a parlé de résister, Farid nous a parlé de mener un vrai combat spirituellement. Et je peux vous dire avec assurance que cette semaine, la dernière semaine, a été de cette année, je pense, la semaine la plus éprouvante physiquement pour moi. Et pourtant, je suis parti en déplacement, je suis parti avec ma Bible, je suis parti avec mon ordinateur, je suis parti avec tous mes outils. Mais la seule chose qui me revenait, c'est « Ne vous inquiétez donc pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Donc, un matin, je me suis levé, j'ai dit « Seigneur, moi je veux bien ne pas m'inquiéter, mais dimanche je prêche et j'ai toujours rien. » Et cerise sur le gâteau, je prêche avec ma femme qui fait sa grande première ce matin. Mais chaque matin, je me levais et j'avais ce verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors oui, je le confesse, j'ai ressenti de l'inquiétude. Mais par-dessus ça, j'avais une paix. Je savais que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Parce que je savais que le verset et le passage que Dieu avait déposé dans mon cœur, on devait le partager ce matin avec ma femme. Donc oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Et vous savez pourquoi je ne suis plus du tout inquiet ? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu toute la semaine et toutes les semaines avant. Et je ne suis plus inquiet parce que toute la semaine, j'ai cherché le royaume de Dieu et sa justice. Et vous savez encore plus loin pourquoi je ne suis plus inquiet ? Parce que je savais que ce matin, en fait, finalement, ce n'était pas moi qui allais donner cette prédication, mais c'était ma femme. On peut l'accueillir.
Bonjour à tous. Je suis Francesca, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et comme l'a dit Farid et Damien, c'est ma grande première. Donc nous allons porter notre attention approfondie sur la fin du chapitre... On peut remettre le... S'il te plaît, merci. On va porter notre attention sur la fin du chapitre 6. Donc Damien nous a lu du verset 24 au verset 34. Mais aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement du verset 33. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Ce verset fait donc partie du sermon sur la montagne, qui débute au chapitre 5 du livre de Matthieu. Jésus s'assoit pour enseigner à ses disciples et à la foule rassemblée autour de lui. Jésus leur dit donc, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Lorsque j'ai repris le contexte global du verset, et à partir du chapitre 5 précédent et le 4, il nous est précisé dans la parole que Jésus parle à ses disciples et à la foule rassemblée autour de lui. Cette précision m'a marquée, car à mon sens, elle rappelle que tous ceux qui sont rassemblés autour de Jésus ne sont pas forcément disciples de Christ. Jésus adresse ses instructions et les promesses de son sermon à ceux qui sont engagés à le suivre. Donc quand il dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice », on pourrait se dire « Bon, on est chrétien, donc pourquoi Jésus nous demande ça ?» Et en fait, si, même en tant que chrétien et disciple de Christ, Jésus nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. » Je me suis posé plusieurs questions aussi, trois particulièrement, et je nous invite à nous poser ces trois questions. Qu'entend Jésus par le royaume et la justice de Dieu ? Pourquoi il nous demande de chercher en premier Dieu ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et comment concrètement réussir à appliquer ce verset dans nos vies et dans un monde où les inquiétudes incessantes, ce monde qui nous répète que nous manquons de tout et qui nous crée constamment des nouveaux besoins. D'ailleurs, Farid, dans sa prédication de la semaine dernière, « Vivre dans la victoire », évoquait avec nous le confort occidental. Nous vivons tellement dans le confort, je cite Farid, que nous ne nous rendons même plus compte de tout ce que nous avons. Donc pour répondre à ces trois questions, nous allons étudier ensemble trois points à partir de ce passage. Dieu nous demande de rechercher en premier son royaume et sa justice. Pourquoi Jésus nous dit de chercher Dieu en premier dans notre vie et pourquoi Dieu veut être le premier. Et enfin, nous allons voir ensemble comment il nous équipe pour le rechercher en premier. Nous verrons que Dieu ne nous laisse pas seuls. Et avec cette demande, il pourvoit sur le moyen également pour s'y soumettre. Donc commençons par ce que Dieu nous demande au travers de ce passage. Dieu nous demande de rechercher en premier son royaume et sa justice. Chercher le royaume de Dieu. En lisant ce passage, plusieurs questions ressortent naturellement. Que signifie chercher le royaume de Dieu ? Que nous dit la parole sur le royaume de Dieu ? Est-ce que le royaume de Dieu est sur la terre ou dans le ciel ? Dans Matthieu 6, verset 9, Jésus apprend à ses disciples à prier. Il leur dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le royaume de Dieu, c'est donc là où Dieu règne. C'est là où sa volonté s'accomplit. Donc il faut savoir et comprendre que la volonté de Dieu s'accomplit déjà, et s'accomplit déjà dans le ciel. Et Jésus nous invite, lorsque nous prions, à appeler le règne de Dieu sur la terre. Parce que sur terre, le règne de Dieu est combattu. Le règne de Dieu est combattu, d'abord, pas forcément d'abord, mais par notre chair, ami du péché, et par les ténèbres, c'est-à-dire Satan et ses démons. La volonté de Dieu, c'est que son règne vienne et que sa volonté parfaite s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Rechercher le royaume de Dieu, c'est donc rechercher la volonté de Dieu. C'est faire taire notre chair, vaincre le péché et faire taire la puissance des ténèbres à l'œuvre. Dans Romains 8, verset 1, j'ai beaucoup de versets que j'aime beaucoup, mais celui-là, je l'aime particulièrement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous comprenons donc qu'il y a deux règnes et qu'il n'y a pas de territoire neutre. Le règne de Dieu, le royaume de la vie, et le règne des ténèbres, le royaume de la mort. Chercher le royaume de Dieu, c'est donc rechercher le royaume de la vie en Jésus-Christ. Et ce verset, dans Romains 8, verset 1, c'est un verset, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup parce que dans une saison de ma vie, c'est un verset qui m'a délivrée. C'est un verset qui m'a délivrée de l'oppression de la peur. C'est un verset qui m'a délivrée de la peur, de l'esprit de tristesse, de l'anxiété. Cette parole, je l'ai déclarée et je la déclare encore parce que je sais que cette parole nous délivre. Parce qu'elle nous donne cette promesse que si nous sommes à Jésus, nous sommes délivrés de la loi du péché et de la mort, nous sommes délivrés des ténèbres, de l'esprit de peur et tous les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et nous rappelle qu'on est, comme l'a dit Farid dans Colossiens 1, verset 13, que nous sommes arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de la lumière du Fils. Le royaume de Dieu, c'est donc rechercher la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est rechercher à se soumettre à l'autorité royale de Dieu pour être délivré du malin. Dans Matthieu 6, verset 13, la parole nous dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Le royaume de Dieu, c'est aussi la guérison. Matthieu 10, verset 9. « Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Le royaume de Dieu, c'est aussi la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors si vous ne vous sentez pas libre, si comme moi, vous avez pu être sous oppression de la peur ou de tout autre esprit, Dieu nous fait cette promesse. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le royaume de Dieu, c'est aussi la paix et la joie. Romains 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc si nous avons le manger et le boire, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Dieu a fait de nous des participants de l'établissement de son royaume sur terre. C'est pourquoi il nous a aussi donné le pouvoir d'établir son règne sur la terre et de faire fuir les ténèbres et s'éloigner du péché. Dans Luc 10, verset 19, la parole nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Donc nous comprenons que le royaume de Dieu, c'est là où s'accomplit sa volonté parfaite. Maintenant, que nous dit la parole sur la justice de Dieu? Puisque le verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » La parole nous dit que la justice est un attribut de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dans Deutéronome 32, versets 3 à 4, la parole nous dit « Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez hommage à notre Dieu. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Car toutes ses voies sont équitables. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. » Et Dieu nous appelle à rechercher sa justice. Dans Proverbes 21, verset 21, la parole nous dit « Celui qui poursuit la justice et la bienveillance trouve la vie, la justice et la gloire. » Chercher la justice de Dieu, c'est donc croire que Dieu est un Dieu juste et que c'est lui, lui seul, qui décide des critères de ce qui est juste. C'est lui seul et l'unique juge. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que ce n'est pas le monde. Ce ne sont pas les experts et les scientifiques de ce monde. Chercher la justice de Dieu, c'est se conformer à ce que Dieu dit être bien ou mal. Parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui voudrait dire à la place de Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Les courants de pensée de ce monde veulent prendre la place de Dieu pour définir ce qui est bien et mal. On voudrait nous faire croire, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que le péché, c'est ce qui est bon, et que ce que Dieu dit être juste, c'est mal. Chercher la justice de Dieu, c'est donc nous rappeler que Dieu est souverain. C'est faire entièrement confiance à sa parole et non à notre sagesse ou à notre intelligence humaine. Car la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, versets 18 à 19, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La justice de Dieu, c'est croire aussi que sa justice, elle est bonne, qu'elle est parfaite et qu'elle est souveraine. C'est croire que la justice de Dieu, que la justice de Dieu appartient à Dieu. Dieu, dans sa justice, il s'oppose aussi au péché. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Chercher la justice de Dieu va aussi impliquer de confronter le péché dans notre propre vie, mais aussi confronter le péché dans la vie de nos frères et sœurs sans se positionner en juge, car Dieu seul est juste et juge. C'est aussi oser annoncer la mauvaise nouvelle. Dieu n'aime pas le péché et il punit le péché de mort. Romains 6, verset 23, Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa justice, Dieu a pourvu au moyen de nous rendre justes par le sacrifice de Jésus. Dans Jean 1, verset 12, il nous est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dans Jean 3, verset 18, la parole nous dit encore « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » À présent, nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu veut être le premier dans notre vie. Puisqu'il est Dieu, ça paraît presque évident. Dieu veut être le premier dans notre vie. Pourquoi ? Je vous rappelle le contexte. Jésus parle à ses disciples. Donc on pourrait se dire, ben pourquoi il leur rappelle que Dieu veut être premier ? Ils ont déjà fait le choix de suivre Dieu. Mais non, Jésus le précise. Dieu veut être le premier dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu. Deutéronome 6, versets 4 à 5 nous dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu est le seul vrai Dieu. Il n'y a et il n'y aura jamais personne qui soit semblable à lui. Celui qui est digne de notre louange, de notre adoration, de notre temps, de notre amour, c'est Dieu. Il veut la première place dans notre vie. Et il est digne de cette première place. Je pourrais presque m'arrêter là, mais ce n'est pas la fin, car cette raison est bien suffisante. Mais pour compléter ce commandement, Dieu nous rappelle qu'il ne veut pas que nous servions un autre Dieu. Il veut la première place dans notre vie parce qu'il ne veut pas que nous servions un autre Dieu. C'est pourquoi dans le verset 24, il nous est dit, est-ce que je l'ai noté ? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc si nous ne décidons pas de manière intentionnelle de mettre Dieu en premier dans notre vie, quelque chose ou quelqu'un prendra sa place. Cette place ne peut pas rester vide. Ne croyons pas que cette place peut rester vide. Ma question pour nous aujourd'hui, est-ce que Dieu est réellement en premier dans notre vie ? Est-ce que nous avons donné cette place à autre chose ou à quelqu'un ? Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 45, versets 5 à 6, la parole nous dit « Le Seigneur, c'est moi et personne d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 8, verset 6, la parole nous dit « Néanmoins, pour vous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Dieu ne veut pas que nous servions un autre Dieu que lui. Si Dieu n'a pas la première place et que le vide n'existe pas, c'est que nous mettons forcément autre chose ou quelqu'un à sa place. Notre mari, notre femme, nos enfants, notre travail, l'argent, notre téléphone. Matthieu 6, verset 24 nous avertit. Je rappelle ce verset. Nul ne peut servir deux maîtres. Nous ne sommes donc pas en capacité humainement, c'est ce que nous dit ce verset, hein, quand il nous dit « nul ne peut servir deux maîtres ». Nous ne sommes pas en capacité humainement de servir deux maîtres. Même les démons reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous reflétions son image à lui et pas une autre. Pas une image que le monde veut que nous reflétions, pas celle de notre chanteur ou chanteuse préférée, mais la sienne uniquement. Dans Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il veut que nous le mettions à la première place, car il est aussi celui qui pourvoit dans notre vie. C'est lui qui pourvoit, bénit, secourt, répond à nos prières et prend soin de nous. C'est pourquoi dans le verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses pour lesquelles vous vous inquiétez vous seront données par-dessus. » Parce que nous le mettons en premier, nous lui démontrons notre dépendance à lui. Nous démontrons que nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces dans nos vies, mais nous démontrons que nous croyons sa parole lorsqu'il nous dit qu'il prend soin de nous lorsque nous le recherchons. Nous croyons sa parole lorsqu'il nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Matthieu 6, verset 31. Dans Ésaïe 45, 21, « Oui, en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. » Donc en vain, nous recherchons la provision de nos propres forces. Car c'est Dieu qui donne. Psaume 23, verset 1, que j'aime beaucoup aussi. « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. Dieu honore notre obéissance. Damien avait fait une prédication d'ailleurs sur l'obéissance qui peut être écoutée sur le site de l'Église. Dans Deutéronome 28, la parole cite toutes les bénédictions qui seront notre partage lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu. Mais mettre Dieu en premier dans notre vie, qu'on se le dise, parfois ça peut être difficile. Nous avons tous des saisons de notre vie où la promesse, où la provision semble tarder. Mais je nous encourage à faire confiance à Dieu, car il prend soin de nous, c'est sa promesse. Mettre Dieu à la première place peut devenir difficile aussi lorsqu'on devient parent pour la première fois. J'ai connu ça. On est fatigué, on a moins de temps pour lire et méditer la parole. Mais même dans ces saisons, Dieu est là, il n'est pas absent. C'est lui aussi qui pourvoit pour renouveler nos forces et prendre soin de nous, même lorsque c'est difficile. Mais lorsque tout va bien, dans nos finances, par exemple, Dieu reste Dieu également. Nous devons nous rappeler que c'est lui qui nous donne la force d'acquérir ces richesses matérielles dont nous jouissons. Deutéronome 8, verset 18 nous dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. » Et lorsque c'est difficile, si vous traversez une saison où rechercher Dieu en premier est difficile, je veux vous rappeler que Dieu ne vous laisse pas seul avec ce commandement. Dieu nous équipe pour le rechercher en premier. Il nous équipe tout d'abord au travers du modèle de Jésus. Jésus qui a tout donné pour le royaume. Dans Matthieu 4, versets 1 à 11, donc deux chapitres précédents, juste avant le sermon sur la montagne, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan. La parole nous dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À plusieurs reprises, Jésus se sert de la parole pour résister à la tentation de Satan. Il est notre exemple. Il connaît et déclare la parole de Dieu. Jésus a cherché en premier à faire la volonté de Dieu. Dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus est donc le modèle parfait de l'accomplissement de la parole. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous sommes rendus capables de faire la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas par nos propres forces. C'est pourquoi Dieu nous invite à marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Dans Romains 8, versets 5 à 9, je vais vous le lire. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. » Inimitié. C'est quoi ce gros mot, comme dirait Farid ? L'inimitié, c'est un sentiment hostile, c'est la haine contre Dieu. Ça veut dire que l'affection de la chair est haine contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. En tant qu'enfant de Dieu, ce qui nous rend capable de faire la volonté de Dieu, ce n'est pas notre volonté seule. Notre chair est incapable de rechercher. Notre chair est incapable de rechercher Dieu en premier. Notre chair, elle recherche les choses du monde. Mais Dieu, dans sa grâce infinie, nous a fait un magnifique cadeau. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, il nous donne aussi son esprit. Dans Romains 8, verset 14, la parole nous dit donc « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Non pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu, dans sa grande bonté, il nous a donné aussi l'Église et des frères et sœurs en Christ pour grandir dans notre connaissance et dans notre application de la parole. Donc la question que je nous pose, quelle place l'Église locale a dans notre vie chrétienne et notre marche avec Jésus. Quelle place et quelle valeur donnons-nous à l'Église locale dans notre vie? Nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu de manière personnelle, mais aussi collectivement en tant que communauté du peuple de Dieu et corps de Christ. C'est une grâce et c'est un privilège pour nous que de pouvoir nous rassembler en tant qu'Église et famille de Christ et appartenant à Christ. Dans Colossiens 1, verset 28, la parole nous dit « Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun dans toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. » Proverbe 27, verset 17, nous dit « Tout comme le fer aiguise le fer, L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc tout seul chez nous, nous ne sommes pas aiguisés. Quel fer t'aiguise? Quel frère t'aiguise? Quelle sœur t'aiguise? Mais surtout, nous laissons-nous véritablement aiguiser? Dans notre église, nous avons par exemple les groupes de vie, les groupes de croissance, groupes de femmes, groupes d'hommes, groupes de jeunes, jeunes adultes. Chacun a sa place. Et si vous ne trouvez pas la vôtre, venez voir les responsables à la fin du culte. Vous êtes seul, intégré en groupe. Ne restez pas seul. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et enfin, pour terminer cette prédication, Dieu ne nous a pas laissés seuls parce qu'il se laisse trouver si nous le recherchons de tout notre cœur et de toute notre force. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné Jésus, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné notre Église, des frères et sœurs en Christ pour nous aider à grandir et marcher selon sa volonté. Notre part à nous maintenant, c'est de marcher dans cette identité d'enfant de Dieu, justifié par Christ et pleinement équipé pour rechercher et faire la volonté de Dieu. Jérémie 29, versets 13 et 14 nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. C'est la promesse de l'Éternel, c'est la promesse de notre Dieu, c'est la promesse de notre Père. Il se laisse trouver si nous le recherchons de tout notre cœur. Dieu n'est pas un Dieu absent. Dieu n'est pas un Dieu qui est loin de nous. Mais Dieu est là. Il est près de nous. Il veut se laisser trouver par nous si nous le recherchons de tout notre cœur. En conclusion, ce passage dans Matthieu 6, verset 33, nous rappelle que Dieu veut donc la première place dans notre vie, car il est le seul Dieu véritable. Et il nous donne aussi le moyen de le suivre et de le mettre à la première place. Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette demande. Si vous avez le sentiment que Dieu est loin, il n'est pas loin. Il se laisse trouver. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné l'Église. Il nous a donné des frères et sœurs en Christ. Dieu veut la première place dans notre vie et dans notre cœur. Alors je nous pose la question ce matin, pour conclure. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Si aujourd'hui vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et que vous aimeriez le faire, ou que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais que vous savez que vous ne le mettez pas à la première place, Dieu se laisse trouver. Venez nous voir aussi à la fin du service, enfin les responsables, et nous prierons avec vous. Je vous laisse avec cet encouragement. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, Intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Père, je te rends grâce pour ta parole. Je te rends grâce de ce que tu nous fais cette invitation de rechercher en premier le royaume des cieux et ta justice, et que toutes choses nous seront données par-dessus. Merci Père, parce que tu es le Dieu véritable, le seul Dieu, l'unique, un Dieu juste, un Dieu bon. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné Jésus, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as donné l'Église, tu nous as donné des frères et sœurs. Merci Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls dans cette demande et que tu nous donnes la capacité en Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu souverain. Viens régner dans notre vie. Viens régner dans notre cœur maintenant, car nous t'appartenons. Merci Seigneur, pour ton esprit de sagesse et de révélation. Je prie au nom de Jésus maintenant que ton esprit révèle. Merci Seigneur, car tu te laisses trouver aussi. Et nous te rendons grâce pour ça. Amen. Merci à tous.